Bonjour à tous et à toutes, bien sûr, bienvenue sur Culture Log. Culture Log, c'est un nouveau podcast qui ne restera pas nouveau longtemps, où on va parler, comme son nom l'indique, de culture. Mais attention, pas de culture académique, non, ici ce sera plutôt culture geek, culture pop, et ainsi de suite. On va parler séries, on va parler jeux de plateau, on va parler livres, on va parler films, on va parler un peu de ce qui nous fait kiffer. Première règle, règle numéro 1,
et quand tu dis kiffer,
ah bah oui, on, moi. J'y arrive, laisse-moi finir ma présentation.
Je veux pas. Bon, d'accord, je vais faire l'intro.
Les mecs sont pas coordonnés, ça commence très
pas
très
du
très
tout.
Oh là là, c'est l'enfer. On aurait dû bosser avant, je le savais. Non, le principe va être simple. On va vous faire partager nos moments de plaisir culturel, nos moments de plaisir ludique essentiellement. Et évidemment, de temps en temps, peut-être, on mettra un petit coup dedans, quelque chose qui nous plaît moins. Mais retenez, c'est un peu contractuel, qu'on perdra pas le temps qu'on a avec vous à vous parler de choses qui nous plaisent pas. On préfère vous parler de ce qui nous fait vibrer pour vous passer le meilleur moment possible avec nous. Vous l'avez entendu, j'ai avec moi Dio. Salut Dio.
Salut Artemus, c'était très très difficile de ne pas t'interrompre durant cette introduction, j'en avais vraiment très envie, juste pour t'embêter évidemment.
Eh ben écoute, il faut pas hésiter, on est là pour échanger. Ah oui, alors ça, vous verrez vite, on n'est pas dans une émission où chacun a sa petite chronique tranquille, non, on va se couper la parole, on va se parler, on va échanger. Pour tout vous dire, on a un prompteur général, on sait dans quel ordre se passe l'émission, mais on ne sait pas de quoi l'autre va parler, pour conserver un maximum de fraîcheur et pas risquer de se documenter en amont. Après, on n'est pas né de la dernière pluie non plus, donc on se tient quand même au courant, c'est un peu le but. Mais vous avez compris, je crois, l'idée. Dio, est-ce que tu es partant? Est-ce que ce contrat-là te plaît?
Ben, je suis prêt. Une seule peur, si ça se trouve, nous sommes venus avec exactement les mêmes sujets, mais c'est très improbable, donc faut bien se lancer pour voir.
La probabilité étant à peu près nulle. L'avantage de la culture pop et de la culture geek, c'est que c'est tellement vaste qu'il y a peu de chances qu'on se marche dessus. Et puis, pour tout situer, on n'est même pas de la même génération. Donc c'est moi le vieillard de la bande, hein, Artemus, 40 ans passé, gamer depuis, je dirais, bientôt 40 ans. Hein. Ouais, ouais.
Finaise.
Et mais l'avantage, c'est que ça me donne... Ah oui, mais je connais des jeux que tu ne connaîtras jamais. J'ai connu l'Atari 520 ST, monsieur. J'étais jeune à l'époque. Bah, et donc, Dio, je te laisse te présenter rapidement.
Eh bien, écoute, tu te situes dans la quarantaine, moi plutôt dans la trentaine, malheureusement dans la deuxième tranche de la trentaine, mais toujours dans la trentaine. Beaucoup de culture inspirée des années 80-90. J'ai du mal à en sortir, malgré tout, même si ça commence à être loin. Mais vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses plus récentes, plus modernes, évidemment.
Le plus vieux des jeunes, en fait, si j'ai bien compris.
Il y a un petit peu de ça, ouais. Moi, il faut avouer.
Toi, tu dois adorer Hitster, j'en suis certain.
Alors, faut-il avoir les bonnes références musicales, que je n'ai pas?
Ouais, mais Hitster, c'est pratique, classé par date, oui. Ça évoque toujours un souvenir. Alors évidemment, plus on est vieux, plus on a de chances d'avoir un souvenir associé, mais bon.
Super jeu au demeurant.
Ouais, super jeu. Un jour, on en parlera d'Hitster, parce que toutes les boîtes sont pas égales, mais quand même, le concept du blind test par date, c'est tellement pratique pour ceux qui disent « Ah oui, je sais », mais qui se rappellent pas le titre ou l'auteur, enfin l'artiste. Enfin. Bon, bah écoute, je te propose de commencer par une petite chronique.
Ok.
Quelques mots.
Commence. Est-ce que tu es en train de me tendre la main, c'est bien?
Alors,
ça
j'ai cru comprendre que tu avais sorti une demi-douzaine de produits, donc
à peu près.
On les fera sans doute pas tous, hein, mais on va essayer de s'étendre, on va essayer de s'étaler. Mais vas-y, à toi l'honneur, allez.
Je suis tristesse, j'ai envie de parler de tout.
Ah bah ça va la prochaine fois.
Oui. On se regarde sous le coude. On va commencer par quelque chose qui est une passion en commun, quelque chose qui risque souvent de revenir ici, c'est du jeu de société.
Ouais,
surprise, n'est-ce pas?
Tombe de ma chaise.
Je n'ai malheureusement pas eu le temps de jouer à autant de jeux que ce que je souhaitais ces dernières semaines, j'ai même envie de dire ces derniers mois, mais il y en a un qui a vraiment retenu mon attention et par ailleurs, mon temps et mon argent, en fait, hein, c'est Cozy Stickerville, que j'ai acheté
là.
En double, parce que je me suis dit, ça va être en rupture, et j'ai bien envie de pouvoir y rejouer par la suite. Donc j'en ai un deuxième exemplaire, et parce qu'en plus, c'est un jeu avec un aspect legacy, ce qui fait que quand on l'a terminé deux fois, en l'occurrence, bah, il est terminé pour de bon, et on ne peut plus vraiment y rejouer. Est-ce que tu as entendu parler de Cozy Stickerville?
Mais je l'ai, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire.
Ok, moi je suis à la moitié. J'ai pas encore fini la campagne principale, donc comme je l'ai en double, c'est génial parce que je vais pouvoir la faire 4 fois au total, mais pour l'instant, je suis à la moitié de la première fois. Pour récapituler, ce que c'est que Cozy Stickerville, c'est un jeu qui est sorti en ce début d'année. C'est un jeu coopératif, même plus que coopératif, c'est un jeu qui s'affranchit de la notion de victoire et de défaite, et donc par là même d'affrontement. Ensemble, peu importe le nombre de personnes qui vont être autour de la table, sur la boîte qui est marquée de 1 à 6 personnes, on va construire une ville dans une ambiance cosy, telle que le laisse présager le titre. Tout ça en collant des petits stickers que l'on va débloquer au fur et à mesure de résolution de cartes, de choix et de narration sur un grand plateau, bah, vide au début. Il y a principalement de l'herbe, des petites falaises et une rivière, et on va commencer par construire sa maison. Et ensuite, des personnages vont nous rendre visite, pour le meilleur ou pour le pire, et on va stocker, créer des ressources, on va interagir avec ces personnages, et petit à petit, on va avoir des voisins qui vont s'installer, on va construire des ponts, des puits, et ça va s'agrandir.
D'accord. Voilà, grossièrement. J'avais un petit côté Stardew Valley, moi, de tel que le jeu m'apparaît. Le côté vie rurale, construire son petit lopin de terre, j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit côté. Stardew Valley, c'est vraiment la référence qui m'est venue.
Oui, pour le côté proche de la terre et très cosy. On est vraiment là-dedans, avec les petites histoires d'amour et de voisinage en prime. Si ce n'est que là, en termes de, comment dire, de mécanique de jeu pur, on est vraiment sur du minimalisme à l'extrême, hein, puisqu'en fait, un tour de jeu, c'est très simple. On joue chacun notre tour dans le sens des aiguilles d'une montre, mais en fait, on pourrait très bien faire autrement. Et quand c'est mon tour, tout d'abord, je vais tirer une carte de l'année en cours, il y a 10 années, quand je dis partie, hein, plus ou moins, de plus ou moins une demi-heure, une heure, et je vais avoir une résolution à faire, avec la plupart du temps un choix, mais pas forcément. Et ensuite, j'aurai droit de réaliser une action disponible sur le plateau, ou sur une carte qui a été précédemment tirée. Et c'est tout. Il n'y a pas d'histoire de lancer de dés, etc. Alors, s'il y a un dé, des fois on va le lancer, mais ce n'est pas une mécanique de jeu principale, c'est plus pour créer un petit peu d'aléatoire, mais on n'a pas vraiment de choses à réussir en fait en soi. Et c'est ça qui est vraiment particulier. C'est aussi ça qui m'a plu. Ce jeu qui rappelle que gagner, perdre, ce n'est pas forcément intrinsèquement lié au jeu de société, ni même au jeu tout court. On peut simplement jouer pour le plaisir de jouer, et ça nous ramène vraiment à ça.
Ouais, puis en plus, J'ai vu que la boîte mettait vachement en avant le côté un peu chill, et surtout le côté hyper familial, quoi. Tu peux jouer avec la grand-mère, avec le plus jeune s'il sait lire, ça me paraît pas hors de propos. Enfin, j'ai l'impression que tu peux vraiment jouer avec tout le monde, et que c'est suffisamment mignon, et comme tu disais, suffisamment simple pour attirer vraiment n'importe quel public.
Oui, je pense même, y compris si on a une personne qui n'est pas à l'aise avec la lecture autour de la table, c'est pas grave, on va pouvoir l'accompagner sur la lecture de ses cartes lors de son tour, lui laisser le fin mot du choix, si choix il y a, et que tout le monde autour de la table n'est pas d'accord. Et donc voilà, sur la boîte qui a marqué 8 ans et plus, finalement, à partir du moment où il y aura autour de la table une personne à peu près à l'aise avec le jeu de société moderne, je pense qu'on pourra englober toute personne qui sera curieuse d'en faire une partie. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est toujours bien de le faire quand c'est un objet culturel comme ça, c'est nommer les personnes qui sont derrière le projet. Ici, c'est Kore Konietzka, qu'on a déjà vu pour des jeux un peu legacy, un peu bizarre, un peu inattendu. C'est un peu sa manière de fonctionner, c'est un petit peu ce qu'il aime proposer. Et on a des artistes qui sont crédités. Alors là, je n'ai pas de précision, il s'agit d'illustrations, de graphismes purs, mais on a Jonathan Aucomte, Olivier Fanière, Damien Mamoliti et Thomas Morano. Voilà, il fallait le faire, d'accord. C'est fait. Je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu.
Alors j'avoue, j'étais vachement surpris de voir ça, et justement de voir que c'était, alors je vais écorcher son nom moi aussi, Kore Konietzka, qui l'a fait, parce que si je me souviens bien, c'est quand même lui qui a fait Bordure extérieure pour Star Wars, je crois qu'il est sur la quatrième aide de Twilight Imperium, et avant ça, c'était lui qui avait fait un de mes jeux de cœur, vraiment, un jour je ferai un dossier dessus, Battlestar Galactica. Donc quand tu vois les jeux que ce type a fait, je crois même qu'il s'est perdu, il a beaucoup bossé dans l'univers de Star Wars, j'ai une boîte là-bas de Star Wars Destiny, je vois son nom dessus, donc il a bossé dessus aussi. Et là, le voir arriver sur un truc aussi, aussi simple en fait, aussi limpide, il a su résister à la tentation de compliquer un peu un moment ou un autre. T'as fini la campagne ou pas encore toi?
Non, je suis à la moitié. On a commencé la sixième année, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Non, ça va pas se complexifier plus que ça. Il y a des petites intrigues en filigrane. Notamment, il y a un petit côté escape game, on va dire. Alors attention, mettre des gros guillemets sur escape game. Il y a des mystères, en fait, avec de la résolution logique, des choses un petit peu cachées à découvrir. Je sais pas si on est obligé de le faire pour terminer une partie. Évidemment, quand il y a des joueurs comme toi et moi autour de la table, on va s'atteler à résoudre le plus vite possible ce mystère dès qu'on aura la moindre information supplémentaire. Mais non, ça reste vraiment du « je pioche, je fais ce qui est marqué sur la carte, puis je regarde s'il y a un icône d'action quelque part sur la table et je peux en activer un, ce qui va m'amener sur un petit livret qui va lui-même faire progresser la narration et qui en général va nous mener à ouvrir le livret de stickers pour mettre un sticker sur le plateau ou même mettre des stickers sur d'autres stickers parce qu'il y a des éléments de jeu qui vont évoluer.
Ok, ok, donc vraiment évolutif, tout en restant accessible. Donc là, j'ai envie de dire, manifestement, gros coup de cœur pour toi.
Oui, moi, oui, je me tarde vraiment d'arriver à la fin et je sais déjà d'avance que j'ai bien fait d'acheter une boîte supplémentaire parce que quand je vais arriver à la fin, je vais trouver d'autres êtres humains à capturer pour jouer avec moi et je vais recommencer avec grand plaisir.
On a une idée du nombre de fins possibles dans le jeu ? Ça a été indiqué quelque part ou pas ?
Je saurais pas te dire. C'est probablement indiqué quelque part. En tout cas, moi, ça ne me dit rien. C'est pas le genre d'infos que je vais chercher en général. Notamment là, sur Cozy Stickerville, j'avais très envie de me laisser porter. Je me suis pas renseigné sur la mécanique de jeu. J'ai essayé de me spoiler le moins possible et j'ai vraiment voulu avoir cette démarche de j'achète la boîte, je trouve des personnes avec qui jouer cette partie, cette campagne en entier, et on découvre ce qu'il y a dans la boîte. Et j'ai vraiment bien fait, parce que pour l'instant, c'est que du bonheur.
Ok, bah très bien, espérons juste que tu n'aies pas acheté une deuxième boîte pour rien, mais comme ça, tu pourras nous donner l'info le mois prochain, pour le prochain numéro, en nous disant « Non, stop, n'en achetez pas deux, c'était pas la peine.
» Peut-être.
Je pense que d'ici là, tu l'auras souillé, le jeu, donc tout va bien. Ok, donc c'est Cozy Stickerville, on est bien d'accord ? C'est distribué par qui en France ?
Alors, si je dis pas de bêtises, je pense que ça doit être distribué par Novalis.
Et l'éditeur,
je ne sais pas si je l'ai nommé, c'est Unexpected Games.
Unexpected Games, ils ont quoi leur actif eux ? Genre pour le coup, le nom ne dit rien, ça m'étonne.
Je vais pouvoir te trouver ça de suite. Ils sortent des jeux, je dirais que c'est que leur deuxième ou troisième jeu. Ils sortent des jeux une fois tous les un an et demi, deux ans. Le premier jeu qui était sorti, c'était en 2021, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres entre-temps, c'était The Initiative. Que tu vois ce jeu. C'était aussi Corey Konishka.
Ouais, je me rappelle, c'était pas mal ça.
C'était aussi un jeu avec un aspect un peu legacy, avec aussi des
un côté stickers. Escape, si je me souviens bien. Ouais.
Il y avait un côté escape beaucoup plus poussé, beaucoup plus mystérieux et beaucoup moins accessible au grand public.
Et c'est pas eux qui avaient fait 3000 truandes, cette espèce de truc qui là par contre était pas très bien de mémoire. C'était même assez raté comme jeu.
Je crois que oui, effectivement, je crois que c'est 3000 truandes. Alors je suis complètement passé à côté. Je confirme, c'était la sortie de 2022. Je suis totalement passé à côté, autant en termes d'univers que de visuel. Quand je dis passé à côté, c'est pas que ça m'a pas touché, hein, c'est que je me suis peu renseigné, j'ai pas eu l'occasion d'avoir le jeu sous les yeux. Donc, inconnu au bataillon pour moi, si ce n'est le titre.
Ah ben moi, ça avait tout pour me plaire, une espèce d'ambiance un peu cow-boy, carte de poker et tout, sauf qu'à l'arrivée, pour le coup, je suis passé à travers, mais en y ayant joué, ce qui est toujours un peu plus embêtant, quoi. Mais bon. Donc, on revient sur le jeu initial, Cozy Stickerville, la grosse recommandation de Dio ce mois-ci. Après cette excellente recommandation, moi je vais être particulièrement sournois parce que je vais faire,
deux
cours en un. Ouais, tu m'étonnes. Qui a joué une fois avec moi à Diplomatie ou à BSG sait quel genre de fripouille je peux être.
Je confirme.
En fait, on a beaucoup exagéré. En fait, moi je vais me servir du jeu dont je vais te parler pour introduire la seconde chronique que j'ai tendue tout à l'heure. Et je vais te parler d'un jeu vidéo. Et oui, contre toute attente, j'inaugure cette émission, alors que je suis un fanatique de jeux de société, mais j'inaugure par un jeu vidéo, parce que récemment, j'ai eu un énorme crush sur Tactical Bridge Wizards. Wow. Tout un programme. Je ne sais pas si tu le connais.
Alors, absolument pas, mais au nom, je suis déjà convaincu.
Il faut imaginer que... Je te parle de setting d'abord, je te parlerai du gameplay après, le setting a de l'importance. En gros, on est dans une espèce d'univers un peu dystopique, si tu veux, dans lequel la magie existe. Alors ça fonctionne un peu comme les mutations chez Marvel, c'est-à-dire que tu as un élément déclencheur qui va révéler ton pouvoir magique, et tu vas avoir un catalyseur qui te sert à t'en servir. Et donc, ça commence par une séquence d'ouverture où tu joues un Navy Seer. Petit calembour pourri avec Navy Seal, c'est que Seer, c'est le prophète. Il se trouve que le personnage que tu joues a un pouvoir de prophétie. On va y revenir, c'est important. Et une opération tourne mal, il perd son équipière, et puis bon, ben, fin de ce prologue. 30 ans plus tard, t'es dans un commissariat, t'es avec un autre personnage qui s'appelle Jen, qui est une magicienne, et qui manifestement sert un peu de détective privé à la manque pour la police de la ville. Et évidemment, il se passe un truc qui part en effet boule de neige à l'extrême, et il va falloir démêler cet écheveau. Et du coup, Tactical Bridge Wizards, en termes de jeu, c'est quoi ? C'est une espèce de XCOM, mais je suis un peu embêté pour le comparer à XCOM, parce que XCOM a un côté extrêmement punitif que Tactical Bridge Wizards a, mais a moins. Et ça aussi, je vais y revenir. Si tu veux, le concept, c'est que tu vas avoir une salle qui représente en réalité un peu comme dans XCOM une énigme, c'est-à-dire que tes personnages en fait sont devant la porte, ils la font sauter, d'où le bridge du titre, c'est toute aventure commence par un bridge, et ensuite bah, tu vas jouer tes personnages qui vont se déplacer, prendre des couverts, lancer leurs pouvoirs, tirer, etc., etc. Et à chaque mission, évidemment, tu vas avoir un objectif, par exemple abattre telle cible, ou bien empêcher les renforts d'arriver, puisque dans certaines salles tu as des portes qui permettent aux renforts de rentrer et tu vas devoir éventuellement les verrouiller, etc., etc. Mais la base, c'est vraiment du XCOM, c'est-à-dire déplacement, tir, pouvoir, etc. Il y a plusieurs différences quand même avec XCOM, parce que c'est un rejeton clairement, comme peut l'être un Marvel Midnight Suns, excellent jeu sous-côté, mais excellent jeu quand même. C'est que, en fait, comme je t'ai dit, le personnage Zan est un Navy Seer, donc un prophète, et il a le don de voir ce qui va se passer. Comment ça se traduit en jeu ? Bah, en fait, tu fais les actions de tes personnages en sachant qu'elles peuvent s'en mêler. C'est-à-dire, je fais une action avec le personnage A, une autre avec le personnage B, une autre avec le personnage C, puis je reviens au personnage A, tu vois, je peux décomposer l'activation de mon personnage.
Okay.
Et grosso modo, je vais avoir un mouvement, une action par tour, avec évidemment plein d'exceptions au fur et à mesure du jeu. Sauf que donc, Zan, il voit le futur. Et quand tu as fait toutes tes actions, tu peux cliquer pour dérouler les actions ennemies. Ce qui veut dire que si à ce moment-là, il s'avère que tes choix n'étaient pas les bons, que tu te fais buter un personnage, qu'il se passe un truc, bah, tu peux revenir. Tu peux revenir sur tes actions jusqu'au début de la manche en cours. Alors, attention, une fois que tu as joué tes actions, vu la prophétie de Zan est validée, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça crée une manche, et une fois qu'une manche est terminée, on ne reviendra pas dessus. On commence une nouvelle manche, la mission continue, mais c'est la limite du pouvoir de Zan. Tu peux prophétiser, t'adapter en conséquence, mais une fois que tu as cliqué sur « Valider », c'est terminé, tu ne reviendras pas sur ce déroulement, sur cette séquence-là. Ok ? Mais du coup, en jeu, ça crée des conditions mortelles. C'est-à-dire que déjà, tout de suite, tu vois ce qui peut mal se passer ou pas. Donc, tu as quand même un bon indice. Ensuite, à la différence de XCOM, les personnages ne meurent pas définitivement. Ils peuvent se faire mettre KO, ça oui, mais ils ne meurent pas définitivement. Et là où le jeu a fait un choix que je trouve vachement, vachement intéressant, c'est qu'ils ont mis un paramétrage de la difficulté qui est mais phénoménal. C'est-à-dire que, quel que soit le profil de joueur, tu es sûr et certain que tu pourras adapter la difficulté à toi. Évidemment, tu as le calibre facile, normal, difficile, donc plus ou moins de mobs, une disposition de salle différente. Selon le niveau de difficulté où tu joues, la salle ne sera pas disposée de la même manière. Et puis tu vas pouvoir dire, est-ce que mes personnages commencent avec du mana, un mana, deux mana, ou ils commencent avec double de vie, ou au contraire une vie divisée par deux, etc., etc. Et tout un tas de tirettes que tu peux adapter pour avoir la difficulté qui te convient. Et là où ils ont été encore plus retors, bon moi je me le suis imposé en mode difficile, j'ai souffert, hein. Là où ils ont été encore plus retors...
Je ne suis pas surpris, on sait à quel point tu aimes t'auto-challenger et souffrir.
Ça dépend, ça reste un puzzle, les puzzles ont tendance à me gonfler, mais là c'est tellement concret, et puis t'as ce côté, je reviens en arrière si j'ai fait de la daube, dans une certaine mesure. Et là en l'occurrence, là où c'est démoniaque, c'est que en plus, tu as un objectif principal, mais chaque personnage que tu joues vient avec un petit objectif supplémentaire. Par exemple, on a une qui adore défenestrer les adversaires, ça consiste en fait à pousser un gars sur une case de fenêtre, auquel cas bah, il passe par la fenêtre.
Génial.
Et il se fait l'action. Il y en a un autre qui va te dire, moi je veux finir en un tour. Il y en a un qui va dire, bah, moi, je veux tomber 8 gars dans le même tour, etc., etc. Sauf que tout ça a son objectif optionnel. C'est la première fois de ma vie que je vois écrit dans un jeu, et textuellement, les objectifs optionnels se destinent à ceux qui trouvent le challenge trop facile. C'est écrit noir sur blanc. Et pour justement que ça ne crée pas de décalage punitif entre les joueurs hyper hardcore qui vont le faire et ceux qui ne le feront pas, ces objectifs optionnels ne te donnent que des points pour obtenir des costumes pour tes personnages. C'est purement cosmétique. Donc, si tu ne te sens pas l'envie de relever les challenges optionnels, tu verras à la fin du jeu. Et j'irai même au-delà de ça, et là, ils ont fait un pari qui est hyper audacieux. Imaginons, il y a un puzzle, tu coinces. Tu n'y arrives pas, c'est relou, tu es bloqué, et il y a vraiment un truc qui ne colle pas comme tu veux. Tu peux, littéralement, sauter un niveau. Tu peux cliquer, passer le niveau, oui, non, tu passes le niveau. Et tu as okay. Les mêmes récompenses que si tu l'avais réussi. Donc, tu ne peux pas être bloqué. Ce jeu te bloquera si tu décides que tu le laisses te bloquer. Ou alors que tu décides absolument de faire tel ou tel objectif. Moi, je peux te dire qu'il m'a fallu à peu près une trentaine d'heures pour faire toutes les missions et tous les objectifs optionnels. J'en ai mais bavé. Et en plus, alors ça me prend rarement, mais je me suis mis en tête de le platiner. Enfin, en l'occurrence, d'obtenir tous les succès Steam. Il y en a certains, je me suis arraché ce qui me reste de cheveux. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais du coup, c'est mortel. Parce que si tu veux voir la fin, si tu es embarqué par l'histoire, tu le fais en facile, le jeu il va se passer comme un souffle. Parce que, en plus, le scénar s'offre le luxe d'être chouette. L'ADA, j'y reviens deux secondes, les personnages... Alors, je ne saurais pas définir ça, j'ai pas le vocabulaire pour ça, mais les personnages, ils sont assez anguleux, mais c'est très esthétique, ça rend très bien. Et surtout, ça rend l'action ultra limpide. Ce qui, dans un jeu comme ça, est absolument fondamental. Et du coup, le scénar, en plus, s'offre le luxe d'être plutôt sympa. Il tient à peu près la route, sur fond de guerre des ressources, etc. Et là où ça devient formidable... Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans les jeux, c'est l'incarnation des personnages. T'en as, c'est pas vraiment un spoil, ton équipe au maximum comptera 5 personnes. Et en fait, chacun de ces personnages, il a un caractère, une façon de raisonner, une façon de réfléchir, une façon de plaisanter. Et au début, d'ailleurs, il y a beaucoup de blagues, mais très à l'américaine, tu sais, genre, hey, on pourrait faire ça, ou pas. Et tu as beaucoup cet humour du contretemps, du rythme, qui est vraiment une marque de fabrique de l'humour américain. Et petit à petit, quand même, le scénar prend un peu d'épaisseur, il devient un peu plus poisseux, il y a des séquences un peu plus touchy, etc. Ça reste très bon enfant, il n'y a rien de sordide. Mais tu as quand même cette dimension-là, et les personnages entre eux, là encore, le jeu te propose, littéralement, de temps en temps, et c'est totalement facultatif, d'assister à un dialogue entre deux personnages. Ça va nourrir leur proximité, ça va nourrir leur rapport. C'est que du lore, hein. Tu n'as aucune obligation de regarder ça.
Énormément.
Et à côté de ça, tu vas avoir dans le jeu... 5 missions, une par personnage, où tu vas affronter leur anxiété. Et donc régulièrement, tu vas être associé à ton propre double, et ça va être la même mécanique que le reste du jeu, mais tu ne vas jouer que ce personnage-là dans un certain contexte. Et ça va te permettre, au fil des dialogues, de comprendre que, par exemple, ce personnage-là, son problème de confiance en lui, il vient de tel truc, et que finalement, c'est assez légitime. Et ça va vachement interroger. Du coup, il y a deux manières, à mon avis, de s'immerger facilement dans un jeu. Soit tu as un personnage générique vaisseau dans lequel tu n'as aucun mal à te projeter, soit tu as des personnages qui sont tellement humains que tu n'as aucune peine à prendre fait et cause pour eux. Et moi, les personnages de Tactical Bridge Wizards, à la fin, j'étais content d'écouter leurs vannes, j'étais content de les voir à l'œuvre. Et quand il y en avait un qui se faisait canner pendant une mission, ça me mettait les nerfs. Tu vois, c'est parce que tu as vraiment cette capacité de t'imprégner, de t'immerger dans la vie de ces personnages-là. Donc ça, c'est top. Et puis, tant qu'à faire, techniquement, tu as il y a plein de petits détails dans le jeu qui me plaisent beaucoup. D'abord, chaque personnage a un ensemble de pouvoirs que tu peux customiser. À chaque fois que tu prends un niveau, tu as un point de perk qui va te permettre de compléter un talent. Je prends un exemple, il y en a un, je te laisse deviner lequel, qui peut donner... un tour en plus aux autres. Eh bien, je peux décider, par exemple, que ça en donnera deux, ou bien que ça fera ça, mais sur une zone. Donc, plusieurs personnages auront un tour. Tu en as un... En gros, tu vas pouvoir moduler les pouvoirs en fonction de ta façon de jouer, ou peut-être de tes besoins pour un puzzle. Peut-être que sur tel puzzle, tu vas changer les besoins, juste parce que là, tu as cette configuration-là. Donc, tu vois, il y a l'air de rien, pour les joueurs qui décident de le faire, surtout de manière hardcore, tu as un nombre de potentialités qui est totalement dingo. Et c'est... Et c'est mortel. C'est mortel. Et puis, ils ont le sens du détail, tu vois. Par exemple, l'écran de chargement du jeu, quand tu lances le jeu, tu as tous les personnages que tu as débloqués jusqu'alors qui apparaissent. C'est tout bête. Mais tu vois, tu as cette évolution et c'est le signe que les développeurs ont fait attention à ce qu'ils faisaient. Donc voilà, moi, c'est vraiment, je me suis vraiment attaché à cette espèce d'équipe de... tu vois, au début, je les prenais pour des losers magnifiques, mais en vrai, ils sont quand même bien puissants, tous. Et puis, ils ne sont pas tous des losers. Même Zanegen, au début, où tu te dis « Oula, qu'est-ce que c'est que ces bras cassés ?» Bah, en fait, leur histoire, elle est quand même complexe. Et... Donc ouais, c'est un vrai coup de cœur. Ça s'appelle donc Tactical Bridge Wizards. Alors, ça a été développé par les équipes de Suspicious Developments, qui avaient déjà fait Gunpoint et E-Signature. Pour avoir regardé un peu les deux autres jeux, t'as l'impression qu'en fait, ça fait un moment qu'ils tournent autour de l'idée de Tactical sans être allé au bout, tu vois. Typiquement, tu sens qu'ils cherchaient à faire progresser cette idée-là, et qu'à l'arrivée, bah, ils ont fini par trouver la solution qui est ce jeu-là. Ça coûte une grosse vingtaine d'euros sur Steam, attendez les soldes cas échéant, mais vraiment c'est 20 euros bien investi. Et alors, petit détail, je suis désolé, c'est en anglais. Alors, les dialogues malheureusement ne sont pas de l'anglais de cuisine, donc c'est pas possible de le faire, enfin, c'est difficile de le faire si on n'a pas un niveau d'anglais à peu près convenable. Néanmoins, si ne serait-ce que 10 personnes font ce jeu après avoir écouté cette chronique, je serais très content, j'aurais agi pour un monde meilleur.
Voilà. Waouh. Écoute, moi, ça me donne très envie. Alors, évidemment, pendant que tu en parlais, je suis allé lorgner du côté de la page principale Steam. Ça a vraiment un charme fou. Tu m'as tellement convaincu. J'ai vraiment
envie d'y jouer. Comment tu définirais l'esthétique du jeu ? Moi, j'ai beaucoup de mal.
Alors, pour moi, ça, c'est une esthétique low poly, à trois dimensions, avec le moins de polygones possible. Ça donne ce petit charme qui fait un petit peu comique sans tomber dans le cel shading. Hein. Le cel shading étant assez proche, mais le cel shading, les rebords des personnages, les textures sont beaucoup plus épais, beaucoup plus flat. Là, non, c'est un petit peu la même esthétique que dans Deep Rock Galactic, je trouve.
Oui, c'est vrai, c'est pas faux.
Ça a le mérite de tourner sur à peu près n'importe quoi qui possède une carte graphique.
Oui, c'est ça. Et en plus, tu as une 3D ISO qui est extrêmement propre. C'est très lisible. Moi, vraiment, gros coup de cœur. Gros coup de cœur parce que, alors, au départ, je suis un fondu de XCOM. Et j'avais aussi, j'en parlais tout à l'heure, j'avais aussi adoré Midnight Suns. Midnight Suns, il a pas trop marché, mais pour une raison simple, c'est que je pense que vu que c'était les gens qui font XCOM, qui ont décidé de faire un jeu facile pour les fans de Marvel, ça a frustré les fans de XCOM pour qui le jeu était trop facile, et les gens de Marvel n'ont pas voulu s'y frotter. Alors qu'en fait, c'est très bien. Mais tu vois, Tactical, c'est encore mieux, indépendamment de la licence, parce que rien que pour cette logique de « je vais pouvoir adapter au pixel, la difficulté du jeu, à ma capacité à le finir », c'est top. Parce que ça, c'est un truc, on y reviendra certainement, mais faut pas... il n'y a pas de honte à faire un jeu en mode histoire, tu vois. On n'a pas tous le même temps passé devant les jeux vidéo, on n'a pas tous le même skill. Hein. Moi, je reconnais qu'il y a des jeux où je suis totalement nul. Les FPS, je suis nul, mais vraiment nul, c'est un cauchemar. Ben, c'est pas grave, tu vois. Si ça permet de s'immerger dans le jeu plus facilement, de prendre du plaisir et que... Parce qu'il ne faut pas se tromper, un jeu de puzzle, dans certains cas, ça peut devenir une corvée. Oui, quand un jeu devient une corvée, ça a raté son objectif, tu vois. Ben, Tactical Bridge Wizards, il ne te bloquera jamais. Tu te lances le défi que tu penses être capable de relever et tu t'adaptes.
Moi, ce que je trouve très intelligent de la part des développeurs, c'est de faire confiance aux joueurs sur l'appréhension de cette difficulté, en fait. Hein. Dire, on vous met toutes les clés en main pour avoir le niveau de difficulté que vous souhaitez, le niveau de profondeur tactique que vous souhaitez. Ce que ne font pas certains éditeurs, game designers, hein, qui vont calibrer une... difficulté qui leur semble être la difficulté optimale. Et là, non, j'aime beaucoup cette démarche de faire confiance aux joueurs, dire vous mettrez bien la difficulté que vous souhaitez, le tout c'est que vous passiez un bon moment. Effectivement, c'est mettre toutes les clés en main dans les mains des joueurs pour qu'ils puissent s'approprier le jeu et gratter l'histoire. Moi, c'est l'histoire qui me donne envie, tu vois. Autant le game design a l'air particulièrement bien fait, en tout cas, moi, ça me parle vraiment beaucoup en termes de game design, mais là, quand je vois les visuels, quand je vois les personnages, quand tu me parles de ces petits intermèdes où on va en apprendre un peu plus sur eux-mêmes et leurs interactions, j'ai vraiment envie d'aller fouiller ça.
Ah bah écoute, ravi de l'entendre. En tout cas, donc, je répète une dernière fois, Tactical Bridge Wizard. De retour pour ce Culturelogue inaugural, et donc duo, à toi de jouer pour une nouvelle chronique.
C'est parti, là, c'est une chronique cinéma. Je suis allé au cinéma pas plus tard que hier soir.
Oula.
Pour aller voir un film français réalisé par Jean-Baptiste Sorel
qui s'appelle
Police Flash 80.
Ok, t'as dit film français, je crois. Je reviens quand t'as fini. Hein.
Non, reste un petit peu, tu vas voir. Tu vas voir, on est bien.
Non, mais il y a François Damien dedans, alors déjà ça part plutôt pas mal.
Et on a du grand François Damien, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel dans ce film-là, mais pas que, on a toute une tripotée de personnages secondaires qui ne sont pas si secondaires en fait, hein, qui sont tout aussi principaux que le personnage de François Damien. Il y a Audrey Lamy, on a un Thomas Ngijol qui est en grande forme. Il n'a besoin de rien faire en fait, simplement il est à la caméra, il existe et c'est drôle. Brahim Boulel que je ne connaissais pas et Xavier Lacaille que je ne connaissais pas non plus, mais je vais surveiller ces deux noms parce qu'ils sont très bons aussi. Petit synopsis, nous sommes au milieu des années 80 à Paris. On va suivre le personnage principal, du moins au début, qui est Yvon Castendutch, qui est donc incarné par François Damien. Et lui, c'est un vieux flic. C'est vraiment un flic à l'ancienne. Il résout de temps en temps une affaire, mais lui, ce qui l'intéresse surtout, c'est faire un petit tour au quartier des prostituées, boire des coups et aller au resto, le tout payé par l'argent du contribuable. Le truc, c'est que son collègue de toujours se fait descendre pour une histoire de trafic de drogue et il va se retrouver essayer de venger son ami et il va donc se retrouver à la tête d'une nouvelle, comment on appelle ça ?
Une équipe de choc ? Une escouade ?
Oui, c'est ça, une nouvelle escouade, merci, qui s'appelle Police Flash 80. Et qui est donc spécialisé dans le démantèlement de réseaux de vente de drogue. Et donc, il se retrouve à la tête de cette escouade avec trois petits jeunes, trois petits nouveaux. Et au début, évidemment, ça ne va pas le faire. Et comme toujours dans ce genre de film-là, ils vont finir par s'approprier, se dompter les uns les autres et s'associer pour résoudre cette enquête. Voilà, grossièrement. C'est très drôle. C'est très, très drôle. En tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup fait rire. De A à Z, j'ai eu un sourire bête sur le visage, ne serait-ce que parce qu'on nous plonge dans des années 80, alors qui sont à mi-chemin entre des années 80 hyper bien représentées. Ils sont vraiment allés chercher le moindre détail dans le décor, dans les vêtements, dans les manières de parler. Et des années 80 beaucoup plus fantasmées, avec tous les potards au maximum, en fait. Hein. C'est tellement réaliste que ça en est irréaliste, en fait, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Ça va jusque dans la colorimétrie du film, qui, là aussi, pousse les potards au maximum. C'est hyper flashy, c'est hyper coloré, il y a une BO incroyable. Juste, rien que ça, sourire BA de A à Z. Et en plus de ça, on a un gag hilarant toutes les deux minutes, c'est hyper bien rythmé. Les dialogues, c'est du petit lait, alors c'est ultra vulgaire, mais en fait c'est vulgaire comme un flic à l'ancienne des années 80 et ça clique. C'est une grosse rigolade pour moi. Jean-Baptiste Sorel, c'est un réalisateur à suivre désormais. Je l'avais découvert très récemment sur un court-métrage qui s'appelle La Bifle, qui était sorti il y a quelques années. Alors, tout est dans le titre. Ça parle de ce dont ça parle dans le titre, ni plus ni moins. Dieu. Donc, je le déconseille fortement à toute personne en dessous des 18 ans. Et je le conseille fortement à toute personne majeure et vaccinée, parce que c'est un court-métrage qui est fantastique aussi.
Je me rappelle Taikong.
Oui, Taikong, tu l'as vu, donc.
Ce
court-métrage est incroyable, n'est-ce pas ? Alors, est-ce que tu sais qu'il y a eu un film qui fait suite à La Bifle, qui est Zénithal, que moi, je n'ai pas vu ? Le premier film que j'ai vu donc, de Jean-Baptiste Sorel, c'est Police Flash 80, et je vais m'empresser de trouver un moyen de regarder Zénithal le plus vite possible.
C'est vraiment, mais La Bifle, mais qu'est-ce que j'ai... Je me souviens encore d'une scène où il y avait cet acteur, j'ai bouffé son nom, qui s'apprête à raconter des horreurs, et il a une plante qu'il adore, devant laquelle il ne veut jamais rien dire d'horrible, donc il prend une espèce de cloche, il met la plante sous cloche, il regarde la nana, et là il balance ses horreurs. Et j'étais plié, mais qu'est-ce que ça m'a fait
C'est
dur,
du génie d'écriture. C'est la Bifle, pour revenir là-dessus, alors certes, ça parle de de ce dont ça parle, c'est indiqué dans le titre, mais en soi, c'est une histoire d'amour. Et c'est une belle histoire d'amour. C'est oui, ça enfin, qui est fort.
C'est l'enrobage qui pose un peu problème. Je renouvelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Mineur, ne regardez pas la bifle.
Surtout pas.
Non.
Surtout on ne peut pas décemment vous conseiller ça.
La scène finale, vous n'êtes pas prêt. Cherchez pas. De toute façon, vous n'êtes pas prêt.
Personne n'est prêt. Personne n'est prêt pour la scène finale. Aucun être humain doué de conscience normale n'est prêt pour cette scène finale.
Mais moi, j'adore ces espèces de trucs totalement craqués. Je suis complètement fan de ce genre de film. Alors, si tu me dis que Police Flash 80, c'est du même tonneau...
C'est pas du même tonneau. On peut pas dire ça. C'est plus mainstream. Mais il y a tout un tas de choses inattendues et qui relèvent un petit peu du même humour et de la même manière d'écrire les dialogues et la mise en scène.
Oh, c'est bon, ça. Alors là, j'ai très, très envie. Là. Tout à coup... Tu vois, je me tâtais à aller au ciné, en plus il fait un temps pourri en ce moment sur Bordeaux. Oui, parce que newsflash, je suis bordelais. Je me disais que je me ferais bien un cinéma, je me demandais ce que j'allais aller voir, je crois que j'ai une idée maintenant.
Il est sorti le 18 mars, je ne sais pas si là, nous sommes le 28, s'il est encore projeté pour longtemps, hein, parce qu'on le sait aujourd'hui, les films restent de moins en moins longtemps à l'affiche. Mais je t'invite à aller voir le plus vite possible, à ne pas louper ça sur un grand écran.
Audrey Lamy, comme d'habitude, exceptionnelle.
Oui, oui. Les cinq rôles principaux, François Damiens, Audrey Lamy, Thomas Gijol, Brahim Bouel et Xavier Lacaille, les cinq exceptionnels. Évidemment, avec un François Damiens, Audrey Lamy et Thomas Gijol qui surnagent, hein, qui sont vraiment pour moi au top.
Non mais, là, t'as un nombre... Moi, Gijol, je l'ai surtout vu jouer dans les films de Fabrice Eboué, mais... Que ce soit Casse départ, le Crocodile des Bosses Manga.
La première fois qu'il apparaît à l'écran, et c'est sur les cinq premières secondes du film, il m'a mis par terre. J'étais plié de rire. Il n'avait encore rien dit, juste sa tête.
Alors, en ce moment, je trouve qu'il y a une génération d'humoristes en France qui envoie quelque chose de lourd, tu vois, parce que tu parles de Gijol. Alors, sur scène, alors, je trouve le mec extraordinairement sympathique. J'avais regardé le Hot Ones avec lui, j'avais trouvé le mec vraiment brillant et intéressant. Sur scène, il ne me parle pas nécessairement. Ça dépend, il peut beaucoup me faire rire ou pas du tout. Et à l'inverse, moi, des mecs comme, comme lui, malgré tout, parce que je reconnais qu'il peut être vraiment très drôle, ou des mecs comme Eboué ou Edgar Rive, c'est tellement des machines. Là, tu vois, j'invite tous les gens qui se disent encore « on ne peut plus rien dire » à aller voir des spectacles de ces mecs-là pour voir si vraiment on ne peut plus rien dire. Parce que Eboué, oh mon Dieu.
Non, mais ils ne se censurent pas, à aucun moment. Ils disent ce qu'ils souhaitent dire.
Après, tu vois, Garif, il a fait un autre choix. Garif, il s'autoproduit, ce qui fait qu'il a tant à rendre à personne. Alors là, je suis encore allé le voir il n'y a pas longtemps. Il faisait le rodage, son prochain spectacle, dans un petit hôtel bordelais. Je l'écoutais, je me disais, mais waouh, tu te dis ça m'étonne pas qu'il passe jamais en télévision, ce mec-là. Bon, après, il passe pas en télévision, en partie, parce qu'il s'est mis à peu près tout le groupe Bolloré à dos, ça aide pas. Vu qu'il a un truc mieux que de faire son sketch France-Afrique en citant nommément le milliardaire breton, autant te dire qu'on a beaucoup apprécié ça du côté du groupe Canal+, et que les autres télés veulent pas se mouiller. Et du coup, il s'est mis en autoproduction, et je trouve que cette espèce de génération-là, elle a un culot incroyable. Il y a eu, je trouve, une période un peu creuse dans l'humour pendant une dizaine d'années, et là, depuis 5, 6, 7 ans, il y a une espèce de regain assumé, et j'aime assez l'idée, quand je vois le réel dont tu m'as parlé, et les acteurs dont tu m'as parlé, j'aime assez l'idée que le film, là, soit plutôt bien, bien foutu.
Je pense que ça devrait te plaire, pour être honnête.
J'espère bien. Après, je ne suis pas si difficile que ça. Donc, on récapitule. Police Force 80.
Police Flash 80.
Ah, Police Flash 80. Autant pour moi. Jean-Baptiste Laurent, tu m'as dit
De Jean-Baptiste Sorel. Avec François Damiens, Audrey Lamy, Thomas Gijol, Brahim Boulel et Xavier Lacaille.
Parfait. Dans toutes les bonnes salles obscures près de chez vous. Allez, de retour. Et cette fois, alors je ne vais pas parler d'un produit en particulier, je vais parler d'un... Je sais même pas quoi. Je vais parler. Ça suffira largement.
Ça, c'est bien déjà pour commencer.
Ouais, c'est bon. Pour un podcast, c'est mieux. Le podcast de silence, ça n'a aucun avenir. Alors tu vois, je te parlais de Tactical Bridge Wizards. Et je suis arrivé sur ce jeu par un biais, mais totalement détourné. C'est-à-dire qu'il y a quelque temps, c'était pas la super forme, et du coup, régulièrement, je me foutais devant mon ordi pour me changer les idées, et je me trouvais devant mon backlog Steam, qui est, on va dire, un peu rempli, un peu trop, c'est ça d'être là depuis longtemps, et j'avais plus quoi jouer. Et du coup, finalement, je jouais pas. Et j'étais frustré, parce que malgré tout, j'aime me faire un bon jeu vidéo de temps en temps. Et puis, il m'est venu une intuition. Je suis allé demander à une IA d'établir mon profil de joueur. Alors, je vais tout de suite faire un disclaimer. Je ne suis pas là pour faire un débat ou entrer dans une polémique quelconque. Enfin, si, bien sûr, mais je veux d'abord préciser que il en va des IA comme pour les gens de ma génération d'Internet. C'est-à-dire qu'aucun outil n'est mauvais en soi. Un revolver posé sur une table n'a jamais tué personne. Mais c'est l'usage qu'on en fait. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que je pense que les mômes notamment, moi je le vois, j'ai deux nains qui sont au collège et au lycée qui me racontent que pendant les épreuves, il y a des gamins qui ont le téléphone sur les genoux qui servent des IA. De plus en plus, tu as des gens qui vont laisser l'IA réfléchir à leur place. Et tu vas voir, j'ai vu l'autre soir une vidéo d'un neurologue qui te disait que tu avais une dégénérescence des fonctions cognitives parce que les gens s'en remettent à tous les outils électroniques autour d'eux. Évidemment, ça, personne ne cautionne ça. Dans le milieu qui est le nôtre, le jeu de société, les auteurs qui font appel à des IA, enfin, en l'occurrence, non, les éditeurs qui font appel à des IA pour illustrer leurs jeux, c'est non. Pour moi, c'est non, parce que il y a des artistes qui feront toujours mieux qu'une IA, quel que soit le talent qu'elle a par ailleurs. Après, attention, je sais aussi que la plupart des illustrateurs, désormais, utilisent l'IA pour s'affranchir des tâches les plus pénibles de préparation de leur travail. Et dans ce cadre-là, en tant qu'outil facilitateur, je pense que c'est un bon outil. Fin de la parenthèse, mais ça devait être dit. Donc, je ne lui ai pas dit « conseille-moi un jeu », ce qui aurait été stupide. Je lui ai dit « je voudrais qu'on établisse mon profil de joueur ». L'avantage d'une IA, dans ce genre de circonstances, c'est qu'il faut... C'est comme si tu avais une conversation avec l'interlocuteur le plus neutre, le plus pragmatique et le plus froid que tu puisses imaginer. C'est-à-dire que il n'y a aucun pathos, il n'y a aucune empathie chez une IA. Donc, techniquement, il va te dire vraiment la vérité crue, entre guillemets. Donc, je l'ai laissé faire, je l'ai un peu orienté, on essaie de déterminer mon profil de joueur. À partir de là, on l'a entraîné, c'est-à-dire que je lui ai soumis une série de jeux, donc les jeux locaux de Steam, c'est-à-dire ceux que tu as installés ou achetés il y a peu, une partie d'autres jeux, je lui ai soumis quelque chose comme 150 ou 200 titres. Et à partir de là, à chaque fois, je lui demandais de me l'analyser. Et quand je corrigeais, je corrigeais. Par exemple, ça a permis de détecter que certaines petites choses, certains jeux que je n'étais pas censé apprécier, je l'appréciais parce que X ou Y raison. Par exemple, un univers dont je suis fan. Par exemple, je passerai tout à un Yakuza. Un Yakuza peut être aussi... N'écoutez jamais mes chroniques sur Yakuza, je ne dirai que du bien. Je suis un vendu. C'est horrible. Ryuga Gotoku. Ryuga Gotoku, voulez-vous m'épouser? Je suis un fan de Yakuza.
Je pense qu'énormément de personnes te comprennent là-dessus.
Non, mais je ferai un dossier dessus. Je ferai un dossier intégral dessus. Je ferai 3 heures d'émission tout seul s'il faut, je m'en fous.
J'attends ça avec impatience. Non, je veux être là.
Je suis un fondu de Yakuza. Et donc, au bout d'un moment, je commençais à lui soumettre des jeux et il analysait de plus en plus précisément. Et c'est vachement intéressant de faire ça. C'est vachement intéressant de faire ça. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a des choses que tu ne veux pas t'avouer en tant que joueur, alors que pourtant, déjà en tant que joueur, on évolue. Par exemple, régulièrement, j'essaie de relancer un MMO. Et à chaque fois, il me tombe des mains. Et une fois que je suis passé au prisme de l'IA, en fait, j'ai juste compris que si j'étais sur Vanilla, sur WoW en 2004, je ne suis plus un genre de MMO. J'ai plus le temps, j'ai plus l'envie, les graines structurelles ne m'intéressent plus, et j'ai pas la disponibilité mentale pour ça. Et en discutant avec l'IA, elle m'a aussi permis d'identifier un concept dont j'avais jamais vraiment pris conscience, qui est à quel point un jeu vidéo a comme prérequis essentiel ta disponibilité d'esprit. C'est-à-dire que il y a des moments où tu vas avoir envie de te plonger dans un truc intense, un jeu construit, costaud, etc. Il y a des moments où tu auras juste envie qu'on te raconte une histoire, de vivre une aventure intéressante, tu vois,
oui.
Un visual novel, un jeu tel, etc. Il y a des moments où tu auras envie de dopamine rapide. Tu n'as pas beaucoup de temps, tu as envie de prendre un rush de dopamine. Tu vas jouer à Death, tu vas jouer à Hades, etc. Et puis, il y a des moments où tu n'y es juste pas, en fait, où tu as juste envie de te changer les idées, mais comme ça, de manière neutre. Et là, tu vas tomber sur l'adaptation vidéoludique de Dorf Romantique, ou bien Kind Words, ou des jeux comme ça. Et ça, par exemple, je ne l'avais jamais envisagé. Tu vois, cette logique du quand tu as 5 minutes ou que tu n'as pas la tête à ça, lance pas un gros jeu, tu vas le rejeter. Et typiquement, alors là, je vais commettre un sacrilège sans nom, mais tu vois, par exemple, j'ai adoré Baldur's Gate 3, je l'ai fini, mais je ne le referai pas. Mm-hmm. Je ne le referai pas parce que la quête principale, d'abord, je trouve, est un peu en dessous du reste. Attention, hein, ça reste un chef-d'œuvre, qu'on soit bien d'accord. Mais je ne le referai pas parce que il y a malgré tout un amoncellement de données, de systèmes, de trucs, et une prépondérance de combat tactique où en fait, j'aurais plus l'envie de le refaire. Alors que j'ai vraiment adoré mon premier run. Mais après, je suis aussi partie des gens qui refont rarement un jeu parce que je considère que la fin que tu as eue correspond à la manière que tu as eue de le jouer. Et que derrière, c'est artificiel. L'exception, c'est Clair-Obscur où j'ai vu les deux fins parce que tu n'es pas obligé de refaire le jeu pour ça. Très bien. Mais je refais rarement les très gros jeux parce que dans la partie, j'essaie de conforme à l'idée du personnage que je me suis faite au départ, comme dans un jeu de rôle, et du coup, je vais au bout. Et cet outil-là, donc, ce passage à l'IA, ça m'a permis justement de trier dans ma bibliothèque, de qu'elle me propose le loadout, et c'est comme ça qu'est sorti de la liste Tactical Bridge Wizards, que j'avais acheté il y a très longtemps, parce que j'ai fait la démo qui m'avait plu, et puis je me suis replongé dedans, et j'ai lâché quand il était froid, en fait. C'est-à-dire que le jeu, je n'ai joué pendant X jours qu'à ça. Quand j'avais du temps de jeu, c'était que pour ça, parce que le jeu il me hantait, j'avais envie d'y revenir. Et c'était un très très bon conseil. Juste derrière, il m'a conseillé quoi ? Il m'a dit, bon, t'as fini celui-là, on change d'univers, on change d'ambiance, fais-toi Jedi Survivor. Il se trouve que j'ai le Game Pass, il était dessus, okay. Je fais Jedi Survivor, et j'ai pris un pied monstrueux. Alors, je suis pas du tout un national de Star Wars, j'ai détesté Outlaws, que j'ai eu l'occasion de faire via le Game Pass aussi, mais ça, par contre... c'était trop bien. Et en fait, si tu veux, il restait un dernier point qui me surlupinait, c'était, il reste quand même pas mal de jeux dans mon backlog dont je n'ai pas fait la liste, et j'ai dit, c'est quand même dommage, parce que c'est comme si je m'asseyais sur ces jeux. Réponse pragmatique, c'était, oui, mais de facto, tu t'assieds déjà sur ces jeux, puisque tu joues à rien, et que ces jeux-là, tu te rappelles même plus qu'ils existent pour certains. Donc, petit à petit, éventuellement, le process qui m'a conseillé, c'est, tu te lances sur un jeu, 10, 30 minutes, 1 heure, si t'accroches, t'accroches, t'accroches pas, tu l'oublies sans regret. Mais de temps en temps, tu te fais une session, tiens, je lance un jeu au hasard. Ce à quoi sert, c'est la logique Steam à quoi on joue, tu sais, où t'as des jeux qu'on te conseille qui viennent de ton backlog, que t'as pas lancé depuis longtemps, voire pas lancé du tout. Et en fait, ça m'a permis, moi, de comprendre pourquoi plein de jeux me tombaient des mains et pourquoi j'accrochais à d'autres. Par exemple, j'ai jamais été un grand fan de JRPG, mais j'en ai fait quand même pas mal, et pour la même logique que les MMO, ça me tombe des mains. Le grain structurel, ça me saoule. Les scénarios, qui sont quand même souvent extrêmement pauvres, à base de héros qui va sauver le monde, me tombent des mains. Le dernier que j'ai fini, c'est Persona 5 Royal. Mais Persona 5 Royal, c'est complètement à part. Oh. C'est un truc... On est sur un niveau où Yakuza 8, qui sont à un niveau d'excellence en JRPG. En plus, Yakuza, il y a cet univers que j'adore, le Polar Art Ball, le Japon, etc. Mais ça reste des exceptions. Je pourrais plus faire un Dragon Quest. Je pourrais plus faire un Tales of... Un Trails, peut-être, tu vois, la série des Trails, elle m'intrigue depuis un moment, mais bon, pareil, je m'interroge. Mais au moins, si tu veux, ça a le mérite de te mettre noir sur blanc, voilà ton profil de joueur. Et si tu as bien fait le process, tu vas arriver à un truc pertinent. Moi, je sais que maintenant, je ne supporte plus le grain à la con. Je pourrais plus faire un MMO parce que ça va me saouler très vite. Et ça, c'est toujours vérifié. Donc, il ne peut pas se tromper là-dessus, tu vois. Et à l'inverse, je peux tout à fait prendre du plaisir sur un Nioh. Parce que Nioh, ça challenge. Tu l'as dit tout à l'heure, j'aime bien me challenger. Bon, en l'occurrence, Nioh, j'ai peut-être visé un peu fort parce que vu les fessées que je me prends, ça me rend très conscient de mon niveau actuel de gaming, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais voilà, en fait... Le truc, c'est ça, c'est que si un jour vous retrouvez votre backlog Steam qui devient beaucoup trop ventripotent et que vous vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces jeux ? Eh bien, vous avez peut-être une solution, en n'oubliant jamais, ça je le répète, que l'IA n'est pas là pour décider à votre place, elle est là pour se faire le reflet de ce que vous lui avez dit honnêtement. Donc voilà, à condition de jouer le jeu dans les règles de l'art, il y a là un outil qui est assez chouette, et même si on n'a pas un backlog énorme à vider ou autre, ça permet quand même de se, vraiment de d'épurer son profil et éventuellement d'aller vers des jeux vers lesquels on ne serait pas allé. Typiquement, Jedi Survivor, je ne comptais pas y aller. Bon, non seulement je l'ai fait, mais j'ai pas regretté. Et là, le prochain, c'est Banishers, Ghost of New Eden. Je t'en parlerai sans doute le mois prochain. Mmh. Ça m'a l'air pas mal du tout. Et pourtant, là, on en reparlera aussi. Mais après avoir fini Clair Obscur, c'est dur de retomber dans un JRPG.
Je confirme. Je n'ai pas pu me relancer sur le moindre JRPG depuis. En partie parce que je n'ai pas le temps, mais je suis encore effectivement en train de digérer Clair Obscur de mon côté.
Je t'ai déjà parlé de Yakuza ou...
Oui, je sais. Je ne pourrais pas y échapper et je n'ai pas envie d'y échapper. D'ailleurs, Yakuza 0 est installé sur mon ordinateur et il ne me reste plus qu'à le lancer. À un moment ou à un autre, il m'attend fermement.
Mais tu vois, là, le 25 avril prochain, c'est l'anniversaire de Clair Obscur et je pense que pour le numéro du 1er mai, on en reparlera un petit peu pour l'occasion de l'anniversaire. Parce que bon, hein.
Non, je suis pas prêt. On attend encore un peu.
Non, il faut sortir ça. Il faut changer dessus. Tu verras, ça va être beau.
En tout cas, moi je suis très curieux de d'utiliser l'IA comme ça pour faire un profil de joueur ou même d'autres choses. Mais j'ai l'impression que pour le jeu vidéo, c'est particulièrement bien vu, bien senti, dans le sens où toi comme moi sommes de gros consommateurs de jeux vidéo, il faut le dire. Il y a des sorties absolument tout le temps et c'est dur de faire le tri entre ce qui est proposé et ce que l'on a envie ou ce que l'on croit avoir envie de faire et le temps que l'on a et la disposition mentale que l'on a, hein, comme tu le disais si bien. Je pense que je vais tester ce petit outil.
Ouais, c'est pas moi qui l'ai dit en l'occurrence. Moi, je pense qu'il y a une grande capacité de déni chez les joueurs. Et il y a un autre truc, et ça, tu vas voir, ça va prendre de l'ampleur chez toi à mesure que les années vont s'égrener. C'est que on reste attaché à notre identité de joueur. On se rend pas toujours compte qu'elle évolue. C'est-à-dire que, dans le cas qui est le mien, comme je t'ai dit, plus jeune, je faisais des JDR, des JRPG, je faisais des MMO, je faisais pas mal de trucs comme ça. Et en fait, il n'y a pas seulement le fait que j'ai plus le temps de faire ça, il y a le fait que, en vieillissant, je ne suis plus disposé à accepter des erreurs de développement aussi grossières qui exigent le grind structurel. Il y a rien qui m'énerve plus que de grinder. C'est le principe même
m'agace.
Mais il y a des jeux qui s'y prêtent. Stardew Valley, c'est du grind, fondamentalement. Mais il se passe autre chose.
Oui, justement, c'est pour ça que ça ne m'attire pas plus que ça. En tout cas, j'arrive pas à y rester.
Bah, pareil. Il n'y a pas que ça, mais il y a malheureusement beaucoup ça. Et dans les JRPG, c'est pas pour rien que depuis quelque temps, tous les éditeurs dans les JRPG mettent des x3. C'est parce que. Les joueurs qui ont joué ces jeux-là, et c'est notamment vrai dans les remasters, les joueurs qui ont joué ces jeux-là, maintenant, ils ont 40 ans et plus, et du coup, ils n'ont pas envie de repasser 100 heures sur le jeu. Et quand tu peux finir un Dragon Quest 7 en 40 heures au lieu de 120, bah, c'est très bien, tu vois.
Oui, ah oui.
Bah, oui, mais même, ça ne le fera pas faire pour autant, mais dans l'absolu, c'est pas un hasard si tu as cette fonction qui apparaît dans les jeux.
Moi, j'ai fait la plupart de la saga Final Fantasy en émulateur de Super Nintendo. Quand j'étais ado. Et
mais tu avais bien sûr les jeux originaux.
La majorité. Hein, oui, évidemment. Alors, j'en ai acheté certains par la suite, mais pour posséder l'objet. Et y avait cette fonctionnalité sur les émulateurs de pouvoir accélérer le temps de jeu. Et c'est vrai que sans ça, il y en a certains que je pense que je n'aurais jamais fait. Je pense notamment Final Fantasy VI, qui est demeurant un JRPG absolument légendaire, je pourrais pas le refaire. Et même quand j'avais la quinzaine, quand je l'ai découvert, s'il avait pris le double, le triple, voire même le quadruple du temps qu'il m'a pris, c'est pas dit qu'à l'époque je ne sois allé au bout, et ça aurait été bien dommage.
Je pense que c'est le meilleur FF. Gros débat, mais
c'est toujours délicat. J'ai du mal à dire quel est le meilleur FF. En général, le meilleur FF, c'est celui par lequel on a découvert le jeu. Moi, pendant longtemps, c'était le 7, parce que j'ai découvert, comme bien d'autres, la série avec le 7. Mais le 6, c'est quand même un monument, il faut le dire. Et ça peut faire le sujet d'une autre émission. Mais je suis aussi en train de refaire Chrono Trigger, qui en soi n'est pas un Final Fantasy, mais en fait est un Final Fantasy, et il est aussi exceptionnel.
Ouais, alors avec cette réserve que, si je ne me trompe pas, Chrono Trigger est plus un action RPG, c'est plus dans l'esprit d'un Legend of Mana.
Non, c'est du tour par tour, c'est juste que tu as des jauges ATB, et en soi, le système est beaucoup plus proche d'un Final Fantasy VII. Ce qui va changer principalement, c'est la manière dont c'est présenté, puisqu'on se base sur la map. Mais tes personnages sont immobiles tant que tu n'as pas rentré une action sur un menu, et en soi, là, il revient... Comme les autres Final Fantasy de cette époque-là, hein, le 5, 6, 7, 8, en mode tour par tour avec cette fameuse jauge ATB. Mais peut-être que ça fera l'objet d'une autre émission.
Bah, figure-toi que je ne l'ai jamais fait.
Oh là 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 là. Ok, on en parle.
Il y a un remaster en route, en développement, donc je verrai à ce moment-là. FF6, quand même. Quand même, quoi. Quand même. Terra. C'est un bon oui. FF, un bon protagoniste central.
Pas que.
Et un bon méchant.
C'est vraiment alors oui, un bon méchant, évidemment, qui est très monolithique, hein, qui manque de profondeur, mais qui est un très bon méchant quand même. Un petit peu comme le Joker dans ses débuts, hein, le Joker de Batman. De toute façon, ils sont très très proches, évidemment.
Oh, Kefka, il est quand même cool.
Mais ce qui, moi, m'a plu en termes de traitement des personnages sur Final Fantasy VI, c'est ce traitement choral des personnages. Il y a tout un tas de personnages, ils sont vraiment très nombreux. Certains diront peut-être trop nombreux. Hein. Je pense qu'il y a un ou deux personnages qui sont assez oubliables parmi les personnages jouables, mais ils ont chacun leur bout d'histoire, ils ont chacun leur personnalité, et ils ont chacun leur lien émotionnel, ils ont chacun leur destin, leurs envies, et c'est en ça que moi, c'est un Final Fantasy qui me plaît énormément, je trouve très riche en termes de narration de personnages.
Ouais. Absolument approuvé par ici. Bon, on a vachement digressé quand même. Hein.
Oui, ça fait du bien aussi de sortir oui. Un petit peu des rails.
C'est une bonne chose. C'est une très bonne... Ah oui, d'ailleurs, tu connais le pluriel de un train, des rails. Voilà, c'est tout. Merci pour moi.
Et on finit là-dessus, c'est magnifique.
Ah, non, pas du tout. Pas du tout, puisque après le Internet, tu vas nous présenter encore un petit...
là-dessus, ça aurait été catastrophique.
Non, ça m'aurait pas spécialement gêné, j'ai aucune dignité, c'est pas grave.
Écoute, j'en ai encore un petit peu sous le coude. On peut parler littérature, si tu le souhaites.
Allez, carrément, avec plaisir.
J'ai rattrapé un bouquin dont on a beaucoup parlé. Il est sorti il y a à peu près 2 ans maintenant, en tout cas en version française. C'est sorti fin 2024. Et c'est Dungeon Crawler Karl. Est-ce que ça te parle ?
Pas.
Mon cher Artemus. Oh, ok. Dungeon Crawler Karl, actuellement, c'est 5 tomes en VF, c'est 7 tomes en VO, je sais qu'il y a un 8e en cours d'écriture. On est sur un style de littérature qui est caractérisé dans le genre lit RPG, pour littérature RPG, à savoir le mélange entre un roman, un livre, et tous les codes du RPG, du jeu de rôle, que ça soit papier ou jeu vidéo, dans le lit RPG, la plupart du temps, on va suivre un personnage ou des personnages qui évoluent dans un monde qui possède des codes de jeu vidéo avec de la montée d'expérience, des niveaux, des classes, et tout ça intégré à leur vie du quotidien. Voilà en gros un peu ce que c'est que le lit RPG. Alors évidemment, il y a autant de codes de lit RPG qu'il existe de licence, d'univers, de l'RPG. C'est un style littéraire qui est très très récent, puisqu'en fait il a été initié en grande partie par Dungeon Crawler Karl, le premier tome étant sorti en auto-édition à la suite du Covid. Je pense que c'est un bouquin qui a dû être écrit durant le confinement. C'est un bouquin donc, de Matt Dinneman, en tout cas c'est une série donc, de Matt Dinneman qui s'est auto-édité à la base, mais désormais c'est édité en VF par Lorestone en France. Et donc, de quoi ça parle tout ça? Dungeon Crawler Karl, donc, ça parle de la vie de Karl, enfin, de la vie, non. Ça parle des aventures de Karl et de son chat, Donut. L'histoire commence de la manière suivante. Carl a une vie un petit peu de loser. Il s'est séparé donc de son ex et pour se venger, il a kidnappé le chat de son ex. C'est un chat de concours. Et un soir, le chat s'enfuit par la fenêtre et donc il se retrouve en slip à escalader un arbre pour essayer de récupérer ce chat. Là, soudainement, les aliens envahissent la Terre. Et alors, le terme envahir n'est pas le bon terme. En fait, les aliens viennent prendre possession de la planète Terre avec une technologie qui est tellement avancée qu'en fait on pourrait la qualifier de magie et je pense même que cette technologie dépasse de loin tout ce qu'on a pu voir dans les univers de fantasy. Elle peut quasiment tout faire, elle est plus que magique, elle est presque divine, et ils viennent réclamer la Terre. Oui, parce qu'en fait on apprend que la Terre a été créée, ensemencée il y a des milliers d'années par tout un tas de races extraterrestres, une sorte de coalition qui ont mis des humains dessus et puis d'autres races, et donc notamment par exemple les chats, les ont un petit peu laissés se développer pour venir récupérer un peu plus tard la planète Terre et pour en faire deux choses. Dans un premier temps, récupérer toutes les ressources, l'eau, les minéraux, etc. Et puis dans un deuxième temps, se servir de ces matières premières et des êtres vivants qui peuplent cette planète, ici principalement les humains, pour réaliser un immense show télévisé, une émission de télé-réalité, dans lequel, ici, en l'occurrence, on envoie les humains survivants de cet apocalypse alien dans un donjon. Et on les regarde, on les suit pour voir s'ils vont survivre. À la fin, il n'en restera probablement qu'un. On ne sait pas trop. Moi, je n'ai lu que le tome 1, donc on ne sait pas trop finalement ce qu'il y a au bout de cet immense donjon. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce personnage-là, Carl, il se retrouve dans ce donjon avec son chat, Princesse Donut, qui n'est pas vraiment son chat. Il se retrouve niveau 1 avec un équipement de base qui est un sweat et un caleçon. Et il va devoir trouver l'équipement, battre des monstres, il va devoir tuer des boss, faire alliance avec d'autres crawlers, oui, parce que les personnages qui arpentent ces donjons, ce sont les crawlers, et essayer de survivre. Tout ça en essayant de faire ça de la manière la plus flamboyante possible, puisqu'ils sont suivis sur l'équivalent de la télévision intergalactique, et que leur but, c'est de plaire le plus possible à leur public, pour récupérer des sponsors et donc de cette manière-là récupérer des équipements plus puissants qui pourront leur être envoyés par telle ou telle corporation extraterrestre. Voilà pour le synopsis. Et encore, ce que je viens de vous dire, ce n'est rien, c'est dans les 20 premières pages du bouquin. Ça part dans tous les sens, c'est complètement absurde. C'est très drôle parce que ça ne se prend pas au sérieux, ça ne tombe pas non plus dans le graveleux ou dans le vulgaire. Par contre, il faut le dire d'emblée, on n'est pas sur de la grande littérature, c'est juste de la grosse marade, de l'aventure, de la bagarre, de la montée de niveau dans un monde absolument absurde.
D'accord, alors là j'avoue que ça m'interpelle ton histoire, là. Quand même le concept, au début, j'ai failli t'interrompre avec un what the fuck à plusieurs reprises.
Oui, c'est bien normal.
Là, parce que là, non, si je calcule bien, on a un mec en calbute, oui. Un chat, des oui. Extraterrestres, et un donjon et une émission de télé.
Oui. Et tout ça fonctionne, en tout cas sur moi, a très bien fonctionné. Ça a été un gros page-turner, j'ai pas réussi à m'arrêter. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est devenu un énorme best-seller depuis 3-4 ans. Tellement bien qu'il va y avoir une série. Alors je sais pas bien si ce sera une série animée ou live-action. Il y a des comics, il y a un jeu de rôle en préparation. Et je pense, en tout cas, tout laisse à présager que ça va arriver ça va du moins prendre sur le marché francophone. Je pense que c'est simplement le temps que le bouche à oreille se fasse, que les gens se plongent dans cet univers-là se fassent happer comme moi, pour que ça devienne un best-seller dans ce style-là, hein, qui est un petit peu particulier, parce qu'on est à mi-chemin entre l'héroïque fantasy, la science-fiction, le tout avec un humour totalement absurde. On n'est pas sur quelque chose d'aussi fin que du Terry Pratchett, hein, mais on n'en est pas loin, disons que c'est plus à l'américaine qu'à l'anglaise.
Les tomes, ils font quelle taille à peu près pour se faire une idée ?
On est sur du 350 à 500 pages en moyenne.
Ah ouais, d'accord, quand même. Ok.
Oui, il se passe pas mal de choses. Et donc, le donjon est découpé en plusieurs étages. Je ne sais plus précisément combien, je crois que c'est quelque chose comme 9 ou 10. Dans le tome 1, il couvre les deux premiers étages. C'est un peu du spoil ce que je vous dis, mais c'est pas grave du tout, faites-moi confiance. Et par la suite, un tome égale un étage, sachant qu'on va exploser en termes de possibilités de tout ce qui se passe dans ce donjon. Mais là, je retiens difficilement mon envie d'en dire plus, puisque c'est à découvrir.
Ok, donc on récapitule, ça s'appelle
Dungeon Crawler Carl, c'est par Matt Dinneman en France, c'est édité par Lorestone. Donc Lorestone, c'est un éditeur qui s'est spécialisé dans le lit RPG. Donc si c'est un style, un genre de littérature qui vous intrigue, qui vous interpelle, bah, allez jeter un œil à ce que font Lorestone. Je pense qu'à un moment ou un autre, vous allez en entendre parler par d'autres canaux.
Bah écoute, moi c'est noté, je vais me rendre à la librairie de ce pas pour jeter un œil au premier tome. J'espère juste, alors moi j'avoue, je suis assez pénible sur entre guillemets, la littérature. C'est un peu pour ça que le cycle des princes d'ombre a fini par me tomber des mains, parce que c'était ça fourmillait d'idées, mais sujet, verbe, éventuellement complément quand il lui tombait un œil, c'était complexe. Je pensais que c'était la VF qui était pourrie quand j'ai eu la VO, non, c'était pas la VF.
Aïe.
Sauf que le cycle des princes d'ombre, c'est une folie, hein. C'est vraiment très très chouette, mais au bout d'un moment, okay. C'est. Non, trop de phrases pauvres, ça me flingue. Donc j'espère que c'est pas aussi grave que tu as l'air de le dire. En tout cas, je vais jeter un œil au premier tome avec.
Difficile à dire. Effectivement, je dois reconnaître qu'on n'est pas sur la grande littérature et en même temps, je lui reconnais tout un tas de qualités. Ce que ça propose, le concept, aussi fou soit-il, est vraiment poussé au maximum et on alterne vraiment entre les phases d'évolution de personnage, de mystère, hein, parce qu'il se passe d'autres choses dans ce donjon, il y a des enjeux autres que simplement taper des monstres, et ça s'alterne avec effectivement des chapitres dans lesquels l'enjeu principal c'est aller taper le boss final de cet étage-là, et ça va être la grosse bagarre à base d'explosions ou de pouvoirs, et ça, je trouve que ça arrive plutôt bien à alterner ces phases-là. Il y a des respirations en fait dans le rythme, même si à nouveau, je le répète, je le concède, on n'est pas sur la grande littérature. Ceci dit, la promesse est tenue à 100%.
Alors moi je vais enchaîner avec une série, figure-toi, on a un peu tout couvert aujourd'hui, c'est quand même bien pratique, une série qui m'a vachement happé récemment. Alors je suis pas du genre à binger, hein, mais j'avoue que quand je peux, je regarde un épisode et là je touche au but. C'est une série qui s'appelle Shrinking, comme rétrécissant, entre guillemets, donc Shrinking, c'est sur Apple TV. Et c'est une série qui met en scène Jimmy. Alors Jimmy, c'est un thérapeute, un psychiatre, dont on apprend dès le début de la série, hein, qu'il est veuf depuis un an, père d'une adolescente de 17 ans, et donc il est thérapeute. Et on le saisit au début de la série dans un niveau de loose absolument spectaculaire, puisque grosso modo, premier épisode, il est en train de sniffer de la coke avec des escort girls. Donc tout va bien pour Jimmy.
Ça ok, le belle, niveau est fixé.
Jimmy vit dans une petite ville manifestement de Californie. Il a pour voisin Liz, interprétée par Liz par Krista Miller, qui est une très très bonne actrice que je connaissais pas ou alors dont je ne me rappelais pas. Une voisine légèrement envahissante, mais qui elle mérite d'être là et qui surtout s'occupe beaucoup de la fille de Jimmy qui s'appelle donc Alice. Alors je spoil tout de suite. La série de ce point de vue-là est clean. C'est pas, vous ne croyez pas tout de suite que Jimmy va finir avec Liz. Liz elle est mariée avec Derek qui est un personnage absolument brillant de la série qui est un peu le facteur positif au milieu de tout ce marasme. Donc fin de la parenthèse. Au cabinet, il a pour collègue Gabby qui est jouée par la sublimissime Jessica Williams. Alors elle, ouh, ah. Trop de beauté en une seule femme, ça ne doit pas être autorisé. Et le
okay,
problème,
j'ai
regardé, c'est que...
j'ai compris.
Non, mais le problème, c'est que Jimmy, étant un peu dépressif, ses thérapies s'en ressentent dans le sens où, contrairement à ce que sa profession lui enseigne, il a tendance à dire aux patients exactement ce qu'il pense. C'est-à-dire que quand tu as une cliente qui se plaint de son mari, il lui conseille cash de le plaquer. Quand il a un vétéran de l'Afghanistan en face de lui, il l'amène sur un ring de boxe pour aller se défouler sur autre chose que sur les passants. Donc c'est pas du tout, du tout, du tout conforme à l'éthique, et ça donne des résultats parfois potentiellement assez catastrophiques. Mais, et c'est l'une des très très grandes forces de la série, c'est qu'elle arrive toujours à louvoyer entre la comédie et le drame. C'est vraiment une comédie dramatique au sens propre. C'est-à-dire que le sort de Jimmy est triste. Jimmy, il est souvent à côté de la plaque, c'est quelqu'un, c'est pas du tout un héros. Alors l'acteur, c'est Jason Segel, qui est un type dont vous connaissez le visage sans nécessairement connaître le nom. Son personnage, je parlais tout à l'heure de Loser Magnifique à propos de Tactical Bridge Wizard, c'est vraiment ça avec lui. Parce que ce mec-là peut être à la fois formidable et nul. Il a vraiment des moments d'égoïsme patenté, nul à chier, et des comportements pourris, et puis quand même, malgré tout, l'envie de bien faire, l'envie d'être un bon père autant que possible, d'être un bon collègue, d'être un bon ami, etc. Donc, c'est... En fait, c'est une série dont certains personnages pourraient paraître clichés, tu vois, la femme noire forte, le couple de gays, c'est vraiment... C'est un peu stéréotype, sauf que c'est là que ça se joue. Un stéréotype, c'est pas un problème si tu l'écris bien. Et là, en l'occurrence, c'est bien écrit. Il y a de vrais enjeux, il y a de vraies questions. Par exemple, il y a une manière, c'est abordé de manière extrêmement intéressante. Le couple d'hommes veut adopter un enfant. Et tu as toute une réflexion autour de ça, alors qu'il n'est jamais dans le jugement. C'est une série qui ne juge jamais, mais elle pose les questions de manière... Et là, en l'occurrence, vraiment, elle ne juge pas du tout, j'insiste. Elle pose la question de manière hyper subtile, en envisageant tous les aspects de la question. Le deuil de Jimmy est un truc qui revient à intervalles réguliers, mais dans des moments du quotidien... Ça parle assez bien de ces personnages pour s'autoriser des petits points où, tu vois, un geste anodin lui rappelle que... Et c'est vraiment subtil, c'est une belle écriture, c'est très fin, c'est très intelligent, c'est magnifiquement bien joué, les acteurs de cette série sont formidables, VF interdite. Alors, j'ouvre encore une parenthèse, j'aime les parenthèses, je n'ai rien contre la VF, on est le pays au monde qui a les meilleurs comédiens de doublage. Sauf que dans cette série, il y a un acteur dont je ne vous ai pas encore parlé, qui n'a plus son doubleur habituel, et le doubleur actuel, moi, me hérisse les oreilles, parce que j'ai oublié de parler d'un personnage qui est central dans la série, qui est le mentor et collègue de Jimmy, qui est le professeur Paul Rhodes, qui est interprété par, roulement de tambour, Harrison Ford.
Ok, inattendu.
Alors, Harrison Ford, 84 ans, fringant. Alors, c'est un peu triste quand on parle d'Indiana Jones, parce que là, c'est un peu un vieux monsieur, ses muscles ont fondu, il se tient pas très droit, mais il a toujours cet œil qui frise, le sourire en coin, et il t'envoie punchline sur punchline sur punchline. Et en même temps, lui aussi, il a une vraie dimension dramatique. C'est un personnage, tu comprends très vite que c'est un psy extraordinairement brillant, mais qu'il a tout sacrifié à sa carrière, à commencer par sa fille, éventuellement son mariage. Et il a, tu sais, c'est un peu ce personnage qui a toujours la vanne aux lèvres, mais qui de temps en temps se fait désarçonner, qui a de vrais moments d'émotion. Harrison Ford vient d'être récompensé pour sa participation à la série d'un... Je crois que ça, c'est un Emmy Awards. Il est brillant. Il est brillant, et c'est là que tu vois que à quel point le résumé à Han Solo ou à Indiana Jones, c'est dommage, parce que c'est un acteur qui a une palette tellement dense. Déjà, il a cette voix extraordinaire, donc elle est très bien avec le doublage de Richard Darbois. Il a cette voix grave et ce ton juste, et dans toutes les intentions, dans toutes les mimiques, il est juste, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la masterclass, ce mec. Et en face, ça ne démérite pas, parce que vraiment, tous les autres personnages, que ce soit Jimmy, Gabi, Liz, etc., tout ce petit monde joue très bien, mais au milieu de tout ça, t'as vraiment... l'espèce d'encre à laquelle tout le monde se raccroche, Jimmy parce que c'est son mentor, et comme il fait tout le temps de la merde, c'est Harrison Ford qui le ramène un peu dans le droit chemin. Harrison Ford qui s'occupe aussi beaucoup de la fille de Jimmy, parce que quand t'as des problèmes, c'est lui qu'elle va voir, de l'associé de Jimmy, de tout le monde. Et en même temps, lui non plus n'est pas à l'abri de certaines fêlures que les autres aident à surmonter. Et donc, ce qu'il faut retenir de Shrinking, c'est que c'est une belle histoire humaine. C'est un groupe de personnes avec des connexions, qui se finissent tous par se croiser les uns les autres, par former une espèce de grand groupe, et c'est la vie de ce groupe-là, mais vraiment avec beaucoup de pudeur, beaucoup de délicatesse, et vraiment un mélange hyper bien dosé d'humour et de drame. T'as vraiment des situations tristes, des situations tragiques, des situations glauques. Par exemple, le personnage du vétéran en Afghanistan, il faut savoir que les Américains ont un gros tabou là-dessus. C'est un sujet qu'on aborde peu dans les séries parce que c'est très compliqué. Et souvent, c'est des mecs dans des séries policières qui pètent les plombs, qui passent à l'acte. Et par exemple, pour te situer, tu connais peut-être la série Magnum, moins de nom. Magnum, qui était détective privé, eh bien, figure-toi qu'en fait, au départ, aux États-Unis, par exemple, Thomas Magnum est un ancien vétéran du Vietnam, et dans la version française, tout ça a été purgé. on le connaît comme détective, mais il n'est jamais fait référence à son passé de soldat. Et en fait, aux États-Unis, depuis quelque temps, et notamment depuis l'Afghanistan, tu as un vrai problème là-dessus. On commence à reconnaître psychiatriquement le trauma quand les soldats reviennent. Et la série justement parle de ça au travers le personnage de Sean, qui est un... Alors l'acteur, je ne sais pas où ils sont allés le trouver, mais alors, il a un peu cet arc qu'avait aussi l'interprète de Tony Soprano pour parler de, pour passer de la menace sur patte au nounours à qui t'as envie de faire un hug. Ce gamin-là, alors j'ai mangé son nom, je vais le retrouver rapidement. Ce gamin-là, il est brillant. Il est vraiment brillant. Et vraiment, voilà. C'est vraiment la série. Plaid et chocolat chaud, tu vois. Parce que tu ne peux que t'accrocher à ces personnages-là. Parce qu'ils te renvoient toujours à quelque chose. Et comme ils sont bien écrits, là encore, c'est ce que j'ai sur Tactical Bridge Wizards. Quand tu as des personnages aussi bien écrits, tu peux pas vraiment. T'as pas de problème pour t'immerger. Parce que d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, les personnages feront appel à un écho de ta vie. Et le tout suffisamment fin et drôle pour que ça soit pas pénible. Donc c'est vraiment très bien. Et j'ouvre une parenthèse, le personnage de Sean est interprété par Luke Tenney, que je ne connaissais pas du tout et qui est excellent comme tous les autres finalement. Comme ça c'est plus facile.
Eh bien écoute. Moi, ce que je retiens dans un premier temps, c'est qu'en 2026, il est possible de voir Harrison Ford à l'écran en pleine forme. C'est bien ça que tu prétends?
Alors, 84 ans quand même, mais son personnage est censé en avoir un peu plus de 70, mais ça passe crème. Hein. Et puis, je te dis, il a cette espèce de hickey freeze et sourire en coin. Tu sens que la canaille est toujours là, tu vois. Il est,
sa spécialité.
Mais surtout, en plus, alors ça, c'est pas un spoil, si on le sait dès le premier épisode, son personnage souffre de Parkinson. C'est vachement dur de jouer un personnage malade quand tu ne l'es pas. Et là, vraiment, et puis je te dis, cette voix et cet art l'art du timing, j'en parle, décidément, les parallèles sont nombreux aujourd'hui, mais l'art du timing dans l'humour américain, des mecs comme Dave Chappelle basent énormément leur humour, encore plus que les Européens, sur le rythme. Dave Chappelle, vous le connaissez, après avoir regardé Le Malais, mais c'est un mec qui, vraiment, a cette rythmique incroyable et cet art du contre-pied. C'est vraiment, c'est l'humour anglais, c'est l'absurde, et oui. L'humour américain, c'est le contre-pied. Mmh. Et cette série-là est vachement là-dedans. Le personnage de Jimmy est un mec qui est tout le temps à contre-temps. Et c'est ça qui crée le décalage humoristique souvent. À l'inverse, c'est le personnage de Gabi qui lui est ultra exubérant. Et son exubérance qui crée ça. Donc en fait, t'as une multiplicité de possibilités d'avoir de l'humour et une multiplicité de possibilités d'avoir du drama. Et ça, c'est un peu triste. Mais du coup, ça marche bien. C'est quand t'as fini l'épisode, tu sais pas trop si t'es joyeux ou triste. Mais c'est une sensation, tu sais, cette espèce de mélancolie un peu smooth qui est très agréable à vivre. Donc ça s'appelle Shrinking. De et avec Jason Segel et l'extraordinaire Harrison Ford. C'est sur Apple TV et vraiment, je vous le recommande très, très, très chaleureusement. Eh ben dis donc, c'est que ça fait un peu plus d'une heure qu'on brasse, ça fait quasiment une heure et demie. Je pense que c'est pas si mal pour un premier épisode, qu'est-ce que t'en penses?
Oui, j'ai pas vu le temps passer du tout.
Bah c'est normal, on parle de kiff.
Je suis à mi-chemin entre une heure et demie, ça fait beaucoup trop, et d'autre part, il y a encore plein d'autres sujets que j'ai envie d'aborder, j'ai encore envie de t'entendre parler de plein de trucs, mais va falloir que l'on sache mettre des limites.
Ah bah la première solution, c'est entre le mois prochain, et peut-être qu'un jour on envisagera un rythme plus soutenu, mais dans l'immédiat, restons raisonnables. C'était le premier épisode de Culture Log, à retrouver le premier de chaque mois. Peut-être qu'un jour sera le premier et le 15, pour l'instant c'est le premier de chaque mois. J'ai envie de dire, prenez bien soin de vous, auditrices et auditeurs. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous vous êtes un peu amusés, que vous avez envie de découvrir ce qu'on vous a proposé aujourd'hui, Dio et moi. Merci Dio pour ces conseils avisés.
Mais je t'en prie, merci à toi mon cher Artemus. On vous dit à très bientôt.
À très bientôt, auditrices et auditeurs. Sur notre podcast. Ciao.
Ciao, bye. Bye.